On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Le grand jour de l'équinoxe sportif. Un texte de Frédéric Sauvé, paru le 27 octobre 2025 dans les as de l'info. Le 27 octobre 2025. C'était une journée très spéciale pour les amateurs de sport. C'était l'équinoxe sportif. Ce mot compliqué veut simplement dire que tous les grands sports nord-américains jouent le même jour. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a des matchs de baseball, MLB, de football, NFL, de basketball, NBA, de hockey, NHL, et de soccer, MLS. On peut dire que c'était une grande fête du sport. C'est quoi un équinoxe? L'équinoxe, c'est le moment de l'année où le jour et la nuit ont la même durée partout sur la Terre. Ça arrive deux fois par an, à l'arrivée du printemps vers le 20 mars et de l'automne vers le 22 septembre. L'équinoxe sportif, lui, se produit une seule fois par année. Il représente le seul moment du calendrier où toutes les ligues jouent en même temps. La date peut changer, mais l'équinoxe sportif revient d'année en année. Pourquoi c'est si rare? C'est parce que les saisons des ligues ne se croisent pas souvent. Mais en ce moment, le baseball est en série éliminatoire. La NFL joue son fameux match du lundi soir. La NBA et la LNH viennent tout juste de commencer leur saison. Quand tout ça tombe le même jour, ça crée l'équinoxe sportif. Les matchs à ne pas manquer. Blue Jays de Toronto contre Dodgers de Los Angeles, match 3 de la Série mondiale. Commanders de Washington contre Chiefs de Kansas City, le grand match du lundi soir en NFL. Celtics de Boston contre Knicks de New York, un classique de NBA. Penguins de Pittsburgh contre Blues de Saint-Louis. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus? Et toi, quel sport vas-tu regarder ce soir? Trump démolit une partie de la Maison-Blanche pour cette salle de bal. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 octobre 2025 dans les As de l'Info. Les travaux de construction d'une immense salle de bal ont commencé cette semaine à la Maison-Blanche. C'est un rêve du président Donald Trump depuis qu'il est en poste. Mais la première étape du chantier a causé tout un choc. Une partie entière de l'édifice a été complètement démolie. Voici ce qui s'est passé. Lundi, la vue de pelles mécaniques s'attaquant à une section de la Maison-Blanche a causé la surprise. On savait déjà que Donald Trump voulait faire construire une énorme salle de bal sur le terrain. Par contre, il avait toujours dit qu'il ne toucherait pas à l'édifice. La salle devait être ajoutée au bâtiment sans l'abîmer. Pendant toute la semaine, des historiens, des politiciens et des citoyens ont demandé que la démolition soit mise en pause. La Maison-Blanche est un immeuble historique, construit en 1800. On l'appelle la Maison du Peuple parce qu'elle appartient à tous les Américains. Habituellement, il faut obtenir la permission d'un comité d'experts avant de modifier ce genre d'édifice. Mais vendredi dernier, il ne restait plus rien de l'aile est de la Maison-Blanche. C'est la partie où se trouve, entre autres, le bureau de la première dame, l'épouse du président et de son personnel. Une salle de bal à la Trump. En réponse aux critiques, Le président a expliqué que cela coûtait moins cher de tout démolir et de construire à partir de zéro. La future salle de bal coûtera quand même 420 millions de dollars canadiens. Elle sera immense. De la taille d'un terrain et demi de football, elle pourra accueillir 1000 personnes. En fait, la salle sera aussi grande que tout le reste de la Maison-Blanche. Trump n'est pas le premier président à vouloir laisser sa marque à la Maison-Blanche. En 1972, le président Richard Nixon a fait construire une allée de bowling au sous-sol. En 2009, le président Obama a modifié le terrain de tennis en y ajoutant des paniers de basketball. Mais personne, depuis des décennies, n'avait entrepris de si gros travaux. Et aucun président n'a démoli une aile complète. Ne sors pas ton tuxedo ou ta robe à paillettes tout de suite. La salle de bal sera terminée en 2029, soit la dernière année du mandat de Donald Trump. Toi, aimerais-tu aller à un grand bal? Ou tu préfères les fêtes plus intimes? Les médecins et le gouvernement du Québec se chicanent. On t'explique. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 24 octobre 2025 dans les As de l'Info. Depuis le printemps, le ministre de la Santé et les médecins du Québec s'affrontent. Le gouvernement souhaite modifier la façon dont ils sont payés et ça ne passe pas chez nos docteurs. Les négociations n'avancent plus et le gouvernement menace de les obliger à accepter cette nouvelle rémunération. Quels sont les changements proposés exactement? Pourquoi les médecins sont en colère? Les réponses ici. Qu'est-ce que le gouvernement propose? En ce moment, plus d'un million de Québécois n'ont pas de médecin de famille, alors le gouvernement du Québec veut régler le problème. Le 8 mai, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a présenté sa solution. Un changement dans la façon de payer les docteurs. En résumé, plus un médecin aura de patients, plus il sera payé. Pourquoi les médecins ne sont pas d'accord? Ils craignent de gagner moins d'argent. Ils considèrent aussi qu'ils perdraient le contrôle sur leur façon de travailler. Surtout, ils ne veulent pas être obligés de voir plus de patients et de négliger la qualité des soins qu'ils offrent. Bref, selon eux, ce n'est pas la solution pour régler les problèmes du système de santé. Ils ont demandé de négocier avec le gouvernement. Ils ne veulent pas d'une décision imposée par une loi. Mais durant l'été, les négociations n'ont pas avancé. Les cours annulés. À la rentrée, pour mettre de la pression sur le gouvernement, les médecins ont décidé de ne plus enseigner aux étudiants en médecine. Cela semble fonctionner. Le 30 septembre, Québec et les médecins ont accepté de discuter. Mais, deux semaines plus tard, les médecins se retirent et disent que les discussions sont un échec. Où en sont les choses maintenant? Les médecins ne sont pas retournés enseigner. Conséquence, la moitié des finissants en médecine n'auront pas leur diplôme cette année. Mercredi soir, le premier ministre François Legault a annoncé que son gouvernement allait adopter une loi spéciale dès vendredi. Celle-ci mettra fin aux moyens de pression des médecins et changera leur rémunération. C'est une façon pour le gouvernement de M. Legault de mettre fin aux discussions. Comme tu peux t'en douter, les médecins sont furieux. Pour adopter la loi spéciale, le gouvernement et l'ensemble des députés de tous les partis ont travaillé à l'Assemblée nationale vendredi, ce qui est inhabituel pour un vendredi. On te tiendra au courant, bien entendu. Toi, as-tu un médecin de famille? As-tu un rendez-vous avec elle ou lui chaque année? « Je te parle du lien sacré des Autochtones avec le territoire. Un texte de Audrey-Lise Roquervieux, paru le 23 octobre 2025 dans les As de l'Info. Quoi? As-tu déjà marché quelque part en te disant « Ici, quelqu'un que j'aime est déjà passé » Il y a quelques semaines, je suis allé sur le site traditionnel Canapeu. Il se situe sur la côte nord du Québec, près de Pessamite. Mon grand-père y allait souvent, accompagné de son ami Wallace. Ensemble, ils partageaient, chassaient et vivaient avec le territoire. Cette fois, c'était à mon tour de marcher là où ils avaient marché. Je suivais le même sentier. J'écoutais les mêmes sons. C'était un moment fort, un de ceux qu'on garde longtemps à l'intérieur de soi. Le territoire est vivant et sacré. Chez les Premières Nations, notre lien avec le territoire est profond. Le terme pour dire territoire en Innu est « Nitassinan », qui signifie « notre terre » dans ma langue. Le territoire, ce ne sont pas juste des arbres, de l'eau ou des animaux. C'est un lieu vivant. Le territoire nous enseigne. C'est un lieu sacré pour les Premières Nations. Il nous apprend. Il nous nourrit et il nous relie à ceux qui sont venus avant nous. As-tu déjà pensé à tout ce qu'on peut faire avec ce que la nature nous donne? Dans nos communautés, la chasse se pratique encore aujourd'hui, mais on ne chasse jamais pour rien. On prend ce dont on a besoin et on utilise tout ce que l'animal nous a donné. La peau, pour faire des vêtements comme par exemple des mocassins. La viande, pour nourrir la famille. Les os pour fabriquer des outils. Rien n'est gaspillé. Chaque pièce de l'animal trouve son utilité. Pourquoi, à ton avis, est-ce important d'utiliser toutes les parties de l'animal? Chez certaines nations, on offre même du tabac à l'animal pour le remercier de s'être offert. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est aussi une marque de respect. On ne se place jamais au-dessus de l'animal. On est en relation avec lui. On lui témoigne le plus grand respect. Sais-tu de quoi il s'agit? C'est du thé du Labrador. C'est une plante indigène d'Amérique du Nord. Les peuples autochtones l'utilisent depuis des siècles. Il sert traditionnellement à soigner des maux liés à la respiration, à la digestion, aux articulations ou aux maux de tête et peut être utilisé en tisane ou en compresse. Les Autochtones l'utilisaient aussi pour colorer des textiles et du bois. Les savoirs de nos ancêtres au sujet du territoire, ce sont des choses qu'on ne doit pas perdre. Malheureusement, les plus jeunes ne les apprennent plus toujours, et moi, ça me tient à cœur qu'on les transmette encore. Qu'on apprenne ensemble à respecter la nature, les animaux, les chemins que nos ancêtres ont pris. Quand on marche sur le territoire avec respect, on n'est jamais seul. On marche avec ceux et celles qui sont passés avant nous et on prépare le chemin pour ceux qui nous suivront. Toi, as-tu déjà ressenti un lien spécial avec un endroit dans la nature? Raconte-moi, ça m'intéresse. Qui a volé les trésors du Louvre? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 21 octobre 2025 dans les As de l'Info. Quatre silhouettes grimpent sur un balcon du musée du Louvre à Paris. Sans doute des ouvriers, mais que se passe-t-il? Les voilà qu'ils sautent sur des scooters et s'enfuient. Puis l'alarme retentit. « Au voleur! On a volé les joyaux de la couronne! » Non, cette scène n'est pas tirée d'un film d'aventure. Ça s'est réellement passé. Dimanche matin, des voleurs masqués ont pénétré dans le Louvre et ont dérobé des couronnes et des bijoux qui ont appartenu à d'anciennes reines de France. Un véritable trésor volé en plein jour, dans le plus grand musée au monde. Et le tout n'a pris que 7 minutes. Les objets volés ont appartenu aux dernières reines de France. Ce sont des bijoux d'une immense valeur, couverts de pierres précieuses. Ce sont aussi des symboles uniques qui appartiennent à l'histoire du pays. Ce qu'on sait du vol. Vers 9h30, les 4 suspects se sont servis d'un camion muni d'une échelle pour accéder au 2e étage du musée. Une fois sur le balcon, les voleurs ont scié une vitre et ouvert une porte. 2 d'entre eux sont entrés dans le musée, dans la salle où sont exposés les précieux bijoux. Ils ont coupé les vitres protégeant les bijoux. En quelques minutes, ils ont réussi à voler 8 pièces uniques. Ils sont ensuite ressortis, ont descendu l'échelle avec leurs 2 complices et ont pris la fuite sur des scooters. Mais oups, ils ont échappé un petit quelque chose dans la rue près du musée. La France aux trousses de malfaiteurs. Ce vol spectaculaire a fait le tour de la planète et a ébranlé la France. Dimanche, le président français Emmanuel Macron a fait cette promesse. Les experts croient que ce sont des voleurs expérimentés qui ont fait le coup. Peut-être même qu'ils ont été embauchés par des collectionneurs. La police doit faire vite. Ces bijoux uniques pourraient être découpés et vendus pierre par pierre. Ce vol soulève aussi beaucoup de questions sur la sécurité d'un musée si important. Est-ce que le système d'alarme a bien fonctionné? Comment se fait-il que les voleurs aient pu garer leur camion contre le Louvre sans problème? Beaucoup de travail attend la 60aine d'inspecteurs qui ont reçu la mission d'élucider cette affaire. À Montréal, les voleurs courent toujours. Le Louvre n'est pas le premier musée à se faire cambrioler. Ça s'est même déjà produit au Canada. En 1972, 3 voleurs se sont introduits par un puits de lumière au Musée des beaux-arts de Montréal. Ils ont emporté 18 toiles d'une valeur totale de 2 millions de dollars. Les cambrioleurs et les œuvres n'ont jamais été retrouvés. Toi, comment t'y prendrais-tu pour protéger un trésor ou des bijoux très précieux? Un gros projet pour Churchill, la capitale des ours polaires. Un texte de Ophélie Delaunay, paru le 23 octobre 2025 dans les As de l'Info. Churchill, une petite ville tout au nord du Manitoba, est considérée comme la capitale mondiale des ours polaires. Mais ce n'est pas pour ces ours que le premier ministre McCarney s'y intéresse. Il aimerait beaucoup moderniser le port de Churchill pour permettre aux marchandises canadiennes de voyager plus vite. Ce projet donne de l'espoir à certains, mais est inquiétant pour d'autres. Explorons le sujet ensemble. Actuellement, le port de Churchill accueille des gros bateaux seulement 4 mois par année. Le reste du temps, la baie d'Hudson et l'océan Arctique, par lesquels ils arrivent, sont pris dans les glaces. Mais avec les changements climatiques, ça pourrait changer. On croit que, d'ici 20aine d'années, il y aura moins de glace et il sera possible de naviguer toute l'année. Voilà pourquoi le premier ministre veut développer le port de Churchill et créer une véritable autoroute maritime du Nord. Mais, est-ce une bonne idée? Permettre à plus de bateaux de venir au port de Churchill aurait plusieurs avantages. Des trajets plus rapides et des économies d'argent. Avec les tarifs coûteux imposés par Donald Trump, le Canada veut vendre ses marchandises ailleurs qu'aux États-Unis. En passant par Churchill, se rendre en Amérique du Sud ou en Europe prendrait moins de temps. Une source de revenus. La région de Churchill est plutôt pauvre. Les travaux dans le port et l'augmentation du nombre de bateaux, ça signifie des emplois et de l'argent pour les communautés de la région, dont plusieurs sont autochtones. Ou une mauvaise idée? Qui dit plus de bateaux, dit plus de problèmes environnementaux. Des bélugas en danger. Chaque été, des milliers de bélugas viennent dans les eaux peu profondes de la région de Churchill pour élever leurs petits en toute tranquillité. Problème. Ces baleines dépendent du son pour se repérer et communiquer. Le bruit des navires pourrait les déranger au point de les faire fuir. Moins de bélugas, moins de revenus. Beaucoup de touristes viennent dans la région pour admirer les bélugas. Si ces baleines s'en vont, il y aura moins de visiteurs et les communautés autochtones qui les accueillent gagneront moins d'argent. Une tradition ancestrale menacée. Les bélugas sont précieux pour les Inuits. Depuis très longtemps. Ils en chassent quelques-uns chaque année pour se nourrir. C'est une tradition très importante pour eux. Un risque de catastrophe écologique. Les bateaux qui passeront par Churchill transporteront surtout du pétrole, du gaz et des minerais. En cas d'accident, un déversement de pétrole pourrait faire de gros dégâts. Certains bateaux pourraient aussi involontairement introduire des espèces envahissantes provenant d'autres océans. Tout ça serait terrible pour les espèces marines locales. Pas facile de développer le port sans nuire aux bélugas. Pour concilier écologie et économie, des scientifiques cherchent des solutions comme créer une zone marine protégée et limiter la circulation des bateaux. Si tu étais premier ministre, quelle décision prendrais-tu? Tes données? De la nourriture pour l'IA? Un texte de Marie-Lise Beaudoin, paru le 27 octobre dans les As de l'Info. Cet article fait partie de notre nouvelle série « Y as-tu pensé? » dans laquelle on t'explique tout ce que tu dois savoir sur cette nouvelle technologie. Évolution, force, limite, impact, pour que tu puisses réfléchir sur sa place dans la société. As-tu déjà joué à un jeu qui te demandait ton nom, ton âge, ta ville ou encore ton genre? Mais sais-tu à quoi servent ces informations? Es-tu obligé de les partager? Découvrons ça ensemble. D'abord, c'est quoi des données? Les données sont des informations personnelles sur toi ou sur ce que tu fais sur Internet, que les applications et sites web gardent en mémoire. Ça peut être ton nom, tes recherches Google ou encore les jeux auxquels tu as joué. À quoi servent ces données? Tout comme tu as besoin de manger pour avoir de l'énergie, penser et grandir, ces données, elles, nourrissent certaines intelligences artificielles, IA. Plus elles reçoivent d'informations, plus elles deviennent performantes. Je t'explique. En autorisant un site ou une application à collecter tes données, cela permet notamment au IA de te proposer du contenu similaire à celui que tu as déjà consommé. Par exemple, Netflix qui te propose des films que tu es susceptible d'aimer selon ce que tu as déjà regardé. Mieux répondre à tes besoins. Par exemple, traduire automatiquement les sites que tu visites selon la langue de ton appareil. Adapter l'application ou le site aux utilisateurs. Par exemple, proposer des jeux qui correspondent à ton âge ou à tes intérêts. Sans les données, les IA ne seraient pas capables d'accomplir tout ça. Des risques à trop partager? Partager tes données n'a pas que des avantages. Ces informations servent à créer un portrait précis de qui tu es pour te montrer que ce qui correspond à tes goûts. Résultat, tu risques de toujours voir la même chose sans découvrir d'autres idées ou points de vue. En plus, Pour te proposer des publicités adaptées à ce que tu aimes, certaines entreprises achètent et vendent ces données. Le problème, c'est que tu ne sais pas toujours qui a accès à tes informations ni comment elles sont utilisées. Ces contenus personnalisés peuvent même influencer tes choix sans que tu t'en rendes compte. Par exemple, ils peuvent te donner envie d'acheter des choses dont tu n'as pas vraiment besoin, t'encourager à rester plus longtemps devant un écran en te suggérant une vidéo après l'autre, ou même influencer tes opinions en manipulant ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Enfin, les données personnelles peuvent en dire beaucoup sur toi. Plus tu donnes d'informations personnelles, plus tu t'exposes au risque de piratage. Partager ces données, bien ou mal, comme tu peux le voir, même si la collecte de données personnelles a d'abord été pensée pour aider, elle peut avoir des effets négatifs si on n'y fait pas attention. Partout dans le monde, on essaie de rendre les règles plus claires afin de mieux protéger tes informations. Tu n'es jamais obligé d'accepter quelque chose sans réfléchir. Chaque oui que tu donnes ouvre une petite porte sur ta vie. Tu as le droit de te poser des questions, de demander conseil ou même de dire « non ». Pense-y. Une application de météo a-t-elle vraiment besoin d'avoir accès à tous tes contacts ou à toutes tes photos? Dans le doute, mieux vaut donner le moins d'informations personnelles possible. Si le partage de données personnelles comporte des risques, mais qu'elles permettent aussi à certaines IA de mieux répondre à tes besoins. Les avantages, en valent-ils la peine selon toi? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Gilbert, Eva, Mathieu et Samuel.